Radio Prague, les informations.
Tensions diplomatiques entre Prague et la Havane. Décharge illégale de déchets, le ministre tchèque de l'Environnement menace de faire payer la note aux Allemands. Et puis Rudolf Slansky, ancien dissident et diplomate, est décédé ce week-end. La République tchèque va tenter d'obtenir un changement de la position de l'Union européenne à l'égard de Cuba. C'est ce qu'a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, au cours d'une conférence de presse à Prague, en compagnie de Stanislav Kazetsky, le diplomate tchèque expulsé de facto par la Havane pour espionnage. Le ministre tchèque a déclaré qu'il n'était pas en mesure dans l'immédiat de fournir des détails sur les modifications concrètes qu'il souhaiterait que l'UE apporte à ses relations avec la Havane. Monsieur Kazetsky a démenti les accusations d'espionnage lancées par les autorités cubaines. Premier secrétaire chargé des affaires politiques de l'ambassade tchèque à la Havane, les autorités cubaines ont refusé de prolonger son visa. Si le Land allemand de Saxe-Anhalt ne fait rien pour enlever les déchets illégaux exportés vers la Bohême, la République tchèque se chargera de leur élimination et enverra la note aux Allemands. C'est en substance ce qu'a menacé de faire le ministre tchèque de l'Environnement, Libor Ambrozek. Pour la troisième fois en peu de temps, un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une décharge illégale de déchets, vraisemblablement importée d'Allemagne. Le parti des Verts est plus proche de la social-démocratie du Premier ministre Jiří Paroubek que du principal parti d'opposition de droite, le Parti civique démocrate. Une précision apportée ce lundi par le président du parti écologiste, Martin Bursík, lors d'un débat télévisé sur la première chaîne publique. Selon les derniers sondages, les Verts pourraient franchir la barre des 5% et ainsi siéger au Parlement. L'ancien diplomate et dissident Rudolf Slansky est décédé à l'âge de 71 ans. Exclu du Parti communiste après l'écrasement du printemps de Prague, il fut notamment signataire de la Charte 77. De 1990 à 1996, il fut ambassadeur à Moscou. Son père, Rudolf Slansky, avait été exécuté lors des purges staliniennes des années 50. Les baby box, ces boîtes à bébés dans lesquelles des nourrissons peuvent être abandonnés anonymement sans que leur vie ne soit mise en danger, ces baby box devraient faire leur apparition dans plusieurs nouvelles localités. Après Prague et Brno, de nouvelles baby box devraient prochainement être installées à Kadagne et à Olomouc. Depuis leur apparition l'année dernière, 3 bébés ont été déposés dans des baby box jusqu'à aujourd'hui. On termine ce bulletin avec la météo. Le temps est toujours maussade sur l'ensemble du territoire, mais mardi, jour de fête des Valéries, le ciel devrait s'éclaircir enfin et les températures maximales grimper jusqu'à 18 degrés. C'était Alexis Rosenzweig pour les informations. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Anna Kubishta pour le programme spécial Pâques.
Vendredi, 10h55. Nous sommes à l'école des Ursulines de Prague. Pour la quinzaine d'enfants qui arrivent dans la salle de classe, c'est le cours de français qui commence. Au mur, des grands panneaux qui expliquent par exemple comment dire l'heure, des images avec le mot écrit en français à côté, une carte de France. Et c'est parti pour 45 minutes de cours qui vont passer avec Tania Kadletsova, leur institutrice.
Bon, je vous présente notre classe, c'est la classe des débutants, ils ont entre 8 et 9 ans à peu près. Bonjour mes enfants.
Bonjour madame.
Asseyez-vous. Pour commencer, on chante la chanson. Bonjour, ça va?
Bonjour, ça va?
Bonjour, bonjour, ça va?
Salut, salut, ça va?
Bonjour, 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 ça va?
Salut, 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 ça va?
Au revoir et à plus tard.
Au revoir, à plus tard.
Très bien. Et c'est là.
Avant le cours, je me suis entretenue quelques temps avec Tania Kadletsova, qui a été en quelque sorte mon guide dans cette école. On se trouve devant l'école Sainte-Ursule, c'est bien ça? Bonjour Tania.
Bonjour, c'est bien ça. C'est une école ursuline, c'est une école catholique. C'est le primaire et le collège ensemble. Ce sont des enfants de 6 à 15 ans, à peu près. Ça dépend. Les enfants sont scolarisés à 6 ans et ils peuvent être scolarisés aussi à 7 ans, un peu plus tard. quand les parents pensent qu'ils ne sont pas encore prêts.
Quelle est la spécificité des écoles religieuses et du système scolaire tchèque par rapport au système français ?
Il y a des écoles qui sont gratuites et aussi il y a des écoles qui sont privées, qui sont payées par les parents. Mais les écoles religieuses ne sont pas payées par les parents. C'est l'État qui paie des profs et tout ça.
Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes prof de français et de tchèque. Comment est-ce que vous êtes arrivée en fait au français ? Vous avez commencé à vous intéresser au français. Est-ce que c'est par hasard ? Est-ce quelle raison ?
Tout à fait par hasard, parce que j'ai passé un collège spécialisé en maths. Puis j'ai cherché un lycée un peu scientifique, mais j'ai pas réussi à l'examen. Alors j'ai dû prendre ce qui restait. Commencer à apprendre le français, c'était un peu choquant parce que c'était une langue que je n'ai pas rencontrée avant. Et les autres dans la classe, ils étaient déjà un peu préparé quand même.
J'étais un peu avancé par rapport à vous.
J'étais la pire dans la classe en fait.
On peut aller à l'intérieur éventuellement juste pour se balader un petit peu.
Ah, bien sûr.
Alors, je crois savoir que vous étudiez encore à la faculté. C'est quoi ? C'est la faculté de pédagogie, c'est ça ?
Oui, pour le collège et aussi pour le lycée parce que il y a des facultés de 4 ans qui ne sont que pour le collège et puis ceux qui veulent enseigner au lycée, ils doivent passer la fac de la philosophie, mais on peut aussi passer la faculté de pédagogie spécialisée au collège et aussi au lycée.
Et vous, vous passez les deux donc, pour pouvoir éventuellement plus tard enseigner au lycée ?
Oui, c'est la fac de 5 ans, c'est un peu plus long, un peu plus dur, un peu plus spécialisé.
On peut dire que c'est l'équivalent de l'UFM en France ?
Ah non, pas du tout. Ça se passe autrement, ce sont plutôt des écoles normales. C'est plutôt ça parce que c'est un apprentissage de 5 ans. Vraiment, on se prépare pendant ces 5 ans à enseigner. UFM, on passe 3 ans, on fait l'UFM, ça se passe autrement.
Finalement, donc vous avez les cours qui est la pratique, les cours dans une école, donc l'école des Ursulines, et vous avez les cours théoriques à la fac.
Moi, personnellement, j'ai commencé à enseigner après la première année à la fac, mais ce n'était pas un stage. Je suis employée régulièrement à mi-temps. À la fac, on apprend la théorie, aussi la pratique, la didactique, méthodologie.
Est-ce que vous vous rappelez de vos premières heures de cours, comment c'était ? Est-ce que vous étiez stressée ou est-ce que c'était finalement une continuation logique ?
Bien sûr que j'étais stressée, j'avais 19 ans, c'était après les vacances, j'avais un autre boulot, j'étais un peu chargée de travail, je me suis dit que je veux plutôt enseigner en même temps parce que c'est plus proche à mes études. J'ai trouvé une petite annonce le 28 août et le 2 septembre, j'ai commencé à enseigner, alors c'est un grand choc, oui. Une grande surprise, les enfants, maintenant ils ont 14 ans, mais à cette époque-là, ils avaient, je sais pas, 10 ans. Ils étaient très bruyants, pas du tout concentrés. Ils ont crié, je sais pas quoi, mais c'était vraiment le premier cours, premier des premiers. Pas de stage avant, Le deuxième cours, c'était avec une autre classe. Et je me suis dit, bon, comme ils sont calmes, comment ça passe le cours. Et puis, j'ai compris que je dois être un peu plus sévère aussi. Maintenant, ça va. Comment est-ce qu'on enseigne à des petits le français? Enfin, comment ça se passe? C'est clair qu'on n'enseigne pas à des petits enfants de 9 ans ou à 8, de 8 ans. Comment on enseigne à des adolescents, par exemple?
À cette école, on commence avec un cours vraiment préparatoire à 7 ans. Et puis à 8 ans, on commence à avoir des cours réguliers des langues étrangères. Ils peuvent choisir entre l'anglais, l'allemand et le français. Pendant mes cours, j'essaie de travailler beaucoup avec des questions-réponses, utiliser la langue dans les situations un peu réelles, des jeux de rôle et des dramatisations des contes. On mime ce qu'on dit quand ils ont des images devant eux ou quand ils le miment. Ça peut entrer dans leur mémoire vraiment facilement. Ils apprennent des phrases, plutôt toutes les phrases, que des mots isolés. Au début, ils ne sont pas capables de créer eux-mêmes des phrases, mais ils apprennent tout ce qu'ils ont entendu et ils l'utilisent comme il faut et dans la situation où il faut.
C'est Sœur Thérèse.
Tania Kadletsova m'avait parlé de Sœur Thérèse, qui est professeure de français à l'école des Ursulines. Comme elle avait justement terminé son cours, elle nous a rejointes et j'ai pu m'entretenir quelque temps avec elle. Arrivée en juin 1990, juste après la révolution de velours, elle nous raconte comment elle s'est retrouvée à Prague.
J'étais venue ici pour 3 mois parce que les sœurs voulaient avoir un enseignement en français. Et puis là-dessus, on a rendu l'école aux sœurs Ursulines. Et donc, elles ont désiré qu'il y ait aussi l'enseignement du français dans leur école. Une extension langue étrangère. Il faut savoir que dans plusieurs écoles de Prague, on peut commencer une langue étrangère à partir de ce qu'on appelle en France le CE2, à partir de 8 ans. Et je collabore avec des collègues tchèques et je me consacre surtout au ce qu'on appelle ici le deuxième degré. En fait, ça correspond au collège.
Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de cette école, des bâtiments et de l'église à côté du couvent?
Tout ça a été fondé au XVIIe siècle. D'ailleurs, cette année, avant Noël, les Ursulines ont fêté le 350e anniversaire de la fondation. C'était vraiment magnifique de voir comme ce pays a des racines historiques et culturelles très importantes. Donc les Ursulines sont arrivées ici et elles ont fait plusieurs fondations après dans le pays. Il y avait toute une tradition éducative. Il y a même eu une école normale de formation des professeurs à Kutnaora, 60 km de Prague. Et alors après la révolution de velours, l'État a rendu les bâtiments et les écoles donc ont retrouvé leurs propriétaires d'origine. Ça ne s'est pas fait sans difficulté et bien entendu tout n'est pas si simple, mais enfin on a eu la possibilité de reprendre notre œuvre éducative auprès des jeunes.
Vous savez ce qu'il y avait, ce qu'on avait fait en fait, des bâtiments pendant le communisme?
Oui, il est toujours resté une école, donc c'était pour nous une chance finalement. Si c'était devenu un hôpital ou autre chose, ça aurait été beaucoup plus compliqué de reprendre.
En fait, finalement, la transition s'est faite plutôt rapidement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les familles ont désiré notre retour. Si les familles n'avaient pas voulu de nous, de l'école, eh bien, ça aurait continué comme avant. Mais c'était vraiment un choix des familles, et ça, je pense que c'est très important. Les gens sont sensibles au fait qu'ils veulent librement choisir leur école et avoir un choix.
les motifs, par exemple, qui sont évoqués par les parents quand ils veulent mettre en fait leurs enfants dans une école religieuse, particulièrement? Pourquoi? Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qui les pousse à les mettre dans cette école plutôt qu'une autre? Est-ce qu'ils expliquent leur choix, par exemple?
Ça serait bien d'avoir des parents ici pour les faire parler, ça serait plus direct. Moi, ce que j'ai entendu plusieurs fois, donc ce que je peux essayer d'expliquer, c'est que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils cherchent. Hein. Simplement, ils ont peut-être le sentiment que peut-être que leur enfant sera, je ne veux pas dire des choses négatives d'autres écoles qui ont aussi leur qualité, bien sûr. Peut-être ils ont le sentiment que leur enfant sera plus suivi et surtout pris personnellement. Chaque enfant étant comme une personne qu'on doit respecter, qui a son rythme propre. Alors bien sûr, on doit leur apprendre aussi à vivre ensemble en société, mais en tout cas, les professeurs cherchent à travailler entre eux, à faire un esprit d'équipe. Il n'y a pas d'individualisme très prononcé, chacun a sa liberté de liberté pédagogique, mais nous essayons de travailler ensemble. Et je crois que ça fait un peu un climat familial, et je pense que ça rejaillit sur les enfants et que les parents aussi sentent que nous sommes d'accord entre nous, que nous essayons de travailler ensemble.
Quelles sont les différences, par exemple, que vous avez pu ressentir entre votre expérience en France et votre expérience en République tchèque ?
Je pense que c'est une bonne question parce que je crois pouvoir dire que les Ursulines, dont je fais partie, nous avons un projet éducatif. Et si nous respectons toutes les variétés culturelles, puisque nous avons des écoles dans le monde entier, nous avons un esprit commun. Et ce qui était très important, c'est de cheminer avec nos chefs d'établissement, qui sont souvent des laïcs, parce qu'ils y tiennent beaucoup à cet esprit des Ursulines. Et c'est très important que chaque établissement soit bien enraciné dans sa culture propre, que ce soit en Indonésie, en Thaïlande, aux États-Unis, au Brésil ou en Europe. Voilà.
Et quelles sont justement à ce moment-là les spécificités, par exemple pour la République tchèque, par rapport à ce que vous avez pu connaître?
Ah oui, ce qui m'a beaucoup plu ici, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'amour pour l'art, pour la musique. Il y a des enfants qui sont vraiment très doués, qui dessinent très bien, qui peignent très bien, pour la gymnastique, l'aérobic, la danse, tout ce que vous voulez, le théâtre et la musique. Je peux dire qu'en général, il n'y a pas d'amateurisme. Un enfant qui apprend un instrument, ils sont vraiment doués. Pas absolument tous, mais vraiment. Et ça, c'est très agréable. Les gens aussi aiment beaucoup chanter, ils aiment beaucoup en général rire. Ils ont une manière assez gaie de prendre la vie. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein.
Thank you.
J'ai vu qu'il y avait des programmes d'échange en fait avec l'étranger. Alors est-ce qu'il y en a avec la France ?
Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on a une extension du côté des langues, c'est une des caractéristiques de notre école. Donc il y a des échanges avec l'Allemagne. L'Angleterre, c'est plus difficile à organiser. Je crois que tous les profs d'anglais connaissent ce problème. Et puis le français en ce qui nous concerne, nous avons eu la chance que notre école qui était à Paris, boulevard Pereire, a accepté tout de suite de répondre présent à cet échange qui Cacon commençait dès 91. Et on le fait une année sur deux, et on va probablement y aller l'année prochaine. Alors, il y a eu des familles qui ont gardé contact, des familles tchèques et des familles françaises. C'est très sympa parce qu'ils invitent parfois même les enfants pour un mois de vacances. Et c'est vraiment des jeunes qui vont commencer à bien parler français. Et nous avons plusieurs anciens élèves qui ont passé le bac en France. On a eu des anciens élèves qui ont été choisis par l'Institut français, qui ont eu une bourse. Et après, ils ont intégré Sciences Po, ils ont des études juridiques en Allemagne, en France, etc. Et ça, c'est très, très intéressant de travailler comme ça.
Et je voulais encore demander s'il y a des projets associatifs, par exemple, menés par des enfants.
Oui, oui. Nous avons lancé une campagne, par exemple, ce n'est pas une association, le Pakistan, pour récolter de l'argent, mais aussi l'école. Je vais laisser aussi la parole à Tania, parce qu'elle peut de compléter, pourquoi pas. Et nous avons aussi ce qu'on appelle Adoptsen Nadalko, c'est-à-dire, en fait, un projet une classe prend en charge un ou deux ou trois enfants, ça dépend, et paie ses études pendant un an ou deux ans, ou etc. Donc c'est très bon parce que les enfants s'engagent pour une année, puis ensuite il faut avoir un suivi, on ne peut pas aider quelqu'un, et puis l'année suivante, hop, on ne fait plus rien. Et alors on reçoit des lettres et des échanges avec des enfants d'Inde, du Pakistan, etc., pour accompagner les études. Est-ce que vous auriez quelque chose à compléter, Tania ?
Chaque année, quand il y a le marché de Noël, les enfants fabriquent des petits produits et les parents aussi apportent quelque chose, on le vend et puis cet argent qui est gagné, on l'utilise aussi pour adopter un enfant, adopter entre guillemets. Alors c'est aussi un projet pour toute école et quelques classes ont choisi de un peu approfondir cette activité et d'adopter aussi leur propre enfant.
Retour dans la salle de classe de Tania Kadletsova où les enfants tout petits débutants en français, ils ne l'apprennent que depuis 7 mois à peine, avaient préparé bien consciencieusement quelques mots pour expliquer ce qu'ils allaient faire pendant les vacances de Pâques.
Je serai chez mamie. Je vais tourner un film.
Je vais faire du sport.
Je serai chez mamie.
C'était une émission spéciale Pâques qui vous a été présentée par Anna Kubishta et proposée par la section française de Radio Prague. Au nom de toute la rédaction française, je vous souhaite de très belles fêtes pascales. À très bientôt.
Je veux faire du vélo. Je veux faire du vélo aussi.
Thank you. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.